Ma bouteille à l'océan. Chapitre 8.
Clem!
J'ai entendu le cri sous ma douche. Un cri d'horreur qui venait du bungalow Huapo, celui de Martine. Sauf que ce n'était pas la voix de Martine. J'ai reconnu celle de Maïma. Pourquoi? Pourquoi cette longue plainte désespérée? Je coupe l'eau. Je sors de la douche sans m'essuyer. Mes pas laissent des traces humides sur le parquet de bambou. Ce cri n'a rien à voir avec ceux joyeux de Maïma il y a quelques minutes quand elle tambourinait aux portes.
« Debout, Clem! Debout, Titine !»«
C'est bon, Maïma, » avais-je pesté dans ma tête. « Du calme, je suis debout et j'ai mal au crâne. J'ai mal dormi. Tellement mal dormi. J'ai passé la nuit à écrire. Toutes les images de la nuit me reviennent. J'ai fait tourner des centaines d'hypothèses dans ma tête avant de prendre une décision. Il faut que j'enquête, seul, de mon côté, sans faire confiance à quiconque. Sans en parler à Yann, la gendarmerie mènera son enquête officielle. Il s'est choisi une adjointe, Maïma. Très bien, capitaine. Je serai plus tranquille ainsi pour remplir ma bouteille à l'océan. J'avance nu dans mon bungalow. J'écoute les bruits dehors, mais je n'entends plus aucun cri. Plus aucun Clem hurler à la mort. Rien ne presse alors. S'il y a urgence, Maïma, Yann ou n'importe qui viendra cogner à la porte. J'ébouriffe mes cheveux raides devant le miroir. Objectivement, je me trouve toujours aussi moche. J'essaye de lister dans ma tête les questions auxquelles je dois trouver des réponses. J'en vois trois. Autant de pistes pour nourrir les chapitres de mon roman. Retrouver Pierre-Yves, d'abord. Est-ce que tout ce cirque depuis sa disparition hier après-midi n'est qu'une mise en scène, ou bien a-t-il réellement été agressé, tué? En apprendre davantage sur les tatouages, ensuite. Il n'y a qu'un tatoueur dans le village d'Atuona, officiellement du moins. Sa boutique, Tattoo, se situe sur la route de l'ancien cimetière de Teivitete. Il aura le droit à ma visite, et pas pour me faire tatouer une croix marquisienne sur les fesses. Tout savoir sur les tikis, enfin. Je suis persuadé que Tanae en sait davantage que ce qu'elle veut bien nous dire sur les fameuses 5 statues dressées mystérieusement autour de sa pension. Tout le monde se connaît sur Iwa-Oa. Elle ne va pas me faire croire qu'un marquisien a pu les sculpter dans son coin et venir les déposer sans que personne sache qui il est. Pourquoi en avoir planté 4 dans la forêt, dont 2 sur un méhaï sacré, et un seul au bord de la route, bien visible, ce tiki d'apparence si gentil, aux cheveux et aux mains fleuries? Je n'ai pas compté, mais ça doit faire plus de 3 questions. C'est un magnum, ma bouteille à l'océan. J'enfile un maillot de pièce, un short kaki et une tunique saharienne par-dessus, histoire de masquer mes formes sous une tenue commando. Je dois faire attention à ne pas devenir parano. Surtout si je commence à repasser en boucle la succession d'événements depuis hier après-midi. L'Enata sur le galet laissé par Pierre-Yves, la mise en scène de sa disparition, les bruits de pas sur la terrasse cette nuit, ma longue veille sous les étoiles avant de rentrer pour essayer de dormir. J'ouvre la porte de mon bungalow. Il jouxte le Huapo de Martine, exactement comme dans l'archipel. La porte est ouverte. Je reconnais le dos large de Tanae, les fesses de pamplemousse de cette sainte nitouche d'Héloïse. Marie-Ambre me rejoint, sortant de son bungalow. Maquillée, mini-jupée, ongles des orteils peints du même or que ses sandalettes, perles noires se balançant entre les pans de sa chemise Versace ouverte et nouée à hauteur de nombril, pour bien montrer qu'elle ne porte pas de soutien-gorge. Histoire que tout le monde puisse profiter de son décolleté de poupée Barbie vainée. C'est ma dernière pensée méchante. Yann est penché devant moi, et dans un geste explicite, passe ses mains sur les paupières de Martine pour les fermer. Martine. Morte. Yann nous résume d'une voix tremblante la scène qu'ils viennent de découvrir. Une scène de crime. Je vais prévenir la police, précise Yann tout en rangeant un morceau de papier plié dans sa poche. Il y a un service de police judiciaire à Papété. Ils seront là dans la journée. Il annonce ça sans cesser de me fixer, comme s'il me soupçonnait. De quoi? D'avoir tué Martine? Je comprends. Pas besoin d'être flic pour comprendre, d'ailleurs. À partir de ce matin, nous sommes toutes des coupables potentiels. J'ai veillé toute la nuit, je n'ai pas entendu un bruit. Martine connaissait donc son assassin, l'a laissé entrer. Il l'a assassiné par surprise. Mes yeux sont aimantés par l'aiguille que Yann a posée sur un mouchoir en papier. L'arme du crime ? Spontanément, j'ai l'intuition qu'un meurtre aussi sordide ne peut pas avoir été commis par une femme. Ça ne peut pas non plus être Yann. Qui reste-t-il alors ? Pierre-Yves ? Un instant, je repense à la nuit d'hier et j'imagine que l'assassin s'est trompé, que c'était moi, le témoin gênant qu'il fallait éliminer. Sauf que ça ne tient pas la route. Comment me confondre avec Martine ? L'aiguille de dermographe m'hypnotise. Elle me confirme dans mes résolutions. Je dois enquêter en solo. Tout tourne autour de cette histoire de tatouage. Mais quel rapport avec Martine ? À ma connaissance, la septuagénaire n'en portait aucun, pas même une patte de chat.
« À partir de maintenant, »
annonce Yann, « plus personne ne devra rester seul. Il ne s'agit pas de surveiller tout le monde. Personne n'est soupçonné. Il s'agit au contraire que tout le monde protège tout le monde. Si personne ne s'isole, même si un meurtrier rôde parmi... à proximité, il ne pourra rien arriver. » Yann me fixe une nouvelle fois, un peu plus longtemps que les autres. Je voudrais croire que c'est parce qu'il veut me protéger, moi, en premier. Mais je devine qu'il réserve ce privilège à la belle Héloïse et que je suis la première sur la liste des suspectes. Je résiste à une envie presque maladive de toucher les graines rouges de mon collier. J'hésite à prendre la parole, à m'en mêler, puis, comme les autres filles dans la pièce, je me tais. Je n'en pense pas moins. Vas-y, capitaine. En attendant que les flics de Tahiti récupèrent l'affaire, tu as quelques heures pour les épater, relever les empreintes, poser des scellés. Moi, comme cette nuit, j'enquête de mon côté. Et j'écris tout, sans rien oublier. On verra qui trouvera le coupable le premier. Une idée folle me traverse la tête. Après tout, peut-être est-ce ce que Pierre-Yves François voulait. Qu'elle ressemble à cela, ma bouteille à l'océan. Un récit dont je sois la suspecte aux yeux de tous, y compris des lecteurs. Que je sois obligé de prouver mon innocence. De vous assurer que je ne mens pas. Peut-être veut-il que chacune des lectrices écrive cela. Est-il allé jusqu'à tuer pour obtenir cet effroyable résultat ?